Merci Marline. Tu as déjà commencé un petit peu ce que je vais dire maintenant. Et dans les prières également d'ailleurs. Ben c'est pas probablement pas le hasard qui fait ça. Et certainement que le Seigneur a quelque chose à nous dire aujourd'hui. En tout cas, je suis heureux de vous voir tous. C'est une joie de vous entendre chanter. C'est beau. Gloire à Dieu. Alors Marlène a posé une question et puis elle vous a donné la parole. Alors je ne vais pas refaire la même chose, mais je vais vous poser une question aussi, moi. Question pour un champion pour vous qui êtes ici. Qu'est-ce qui est le plus important pour un chrétien ? C'est d'aimer son prochain ? De participer aux activités de l'Église, de venir au culte, plus exactement de venir et rendre un culte à notre Dieu, de venir aux études bibliques, aux réunions de prière, témoigner, et puis il y a bien d'autres choses qu'on peut faire pour le Seigneur. Ben, si vous faites tout cela, je vous félicite. C'est bien, mais ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, je laisse l'apôtre Paul répondre. Romains 8, verset 8. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Autrement dit, si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous n'êtes pas chrétien. C'est un peu une question piège, puisque j'ai demandé ce qu'était pour un chrétien d'important. Et si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous ne l'êtes pas. Peut-on penser être chrétien sans l'être ? Avez-vous reçu l'Esprit de Christ ? Êtes-vous rempli du Saint-Esprit ? Que répondez-vous ? Peut-être quelques-uns parmi vous pourraient dire « Je ne sais pas, je ne ressens rien. » Faut-il ressentir quelque chose ? Faut-il parler en langue ? Faut-il accomplir des miracles ? Voyons ce que dit l'Écriture. Mais auparavant, avant de considérer ce que signifie être rempli du Saint-Esprit, revenons sur ce que nous savons. Tout d'abord, effectivement, Jésus l'avait annoncé. La venue du Saint-Esprit. Déclaration de Jésus rapportée dans Luc, chapitre 1, verset 5. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Mais vous recevrez une puissance quand l'Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qui s'est passé. Nous lisons donc le récit dans Actes 2. Le jour de la Pentecôte, les disciples sont réunis, rassemblés dans un même endroit, et là, il y a des événements extraordinaires qui se passent, qui vont changer le cours de l'histoire. Un grand bruit, comme celui d'un vent impétueux, mais sans le vent. Des langues de feu qui viennent se poser sur chacun d'eux. Aussitôt, ils sont remplis du Saint-Esprit et se mettent à parler dans d'autres langues. En entendant ce bruit, les Juifs de la diaspora, venus nombreux pour la fête, accourent en foule, et sont saisis de stupeur, nous dit le texte, en les entendant dans leur langue. Et puis s'ensuit le discours de Pierre et la conversion de 3000 personnes. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, à Jérusalem, est unique. Dieu a envoyé son esprit sur ses disciples. Ils furent remplis du Saint-Esprit et purent accomplir la mission pour laquelle ils étaient destinés, à savoir annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette bonne nouvelle est venue jusqu'à nous. Et puis, l'Esprit de Dieu habite en nous. Tel était le thème de notre dernière méditation. Rappel de la déclaration de Jésus rapportée par l'apôtre Jean au chapitre 14 de son évangile. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » Verset 22, Jude, à distinguer de l'Istario, lui dit « Mais Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » N'est pas extraordinaire cette déclaration de Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Et nous avions considéré quelles étaient les implications et quelle place nous lui laissions dans notre maison. Et nous prolongeons aujourd'hui notre réflexion en nous attendant sur cette déclaration de l'apôtre Paul aux Romains 8. Il dit l'action du Saint-Esprit dans nos vies. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous retrouvons ici le combat que nous devons combattre régulièrement, continuellement. Vivre en étant livré à nous-mêmes, ou selon sa nature propre, ou encore selon la chair, selon les versions, ou bien vivre selon l'Esprit. Comment vivons-nous la présence du Saint-Esprit dans nos vies personnelles et au sein de l'Église? Hayden Wilson Tozer, ancien pasteur et théologien américain, disait « Si le Saint-Esprit était retiré de l'Église aujourd'hui, 95% de ce que nous faisons continuerait et personne ne remarquerait la différence. » Si l'Esprit Saint avait été retiré de l'Église à l'époque des apôtres, 95% de leurs activités auraient cessé et tout le monde s'en serait rendu compte. Elle est dramatique, cette déclaration. Et cela doit nous faire réfléchir. Comment évaluons-nous notre vie spirituelle ? L'ange de l'Éternel reprochait à l'église d'Éphèse, Apocalypse 2, verset 4, Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pourtant, verset 2, il leur dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Comment répondre à cette interpellation pour nous aujourd'hui ? Lecture de Luc 11, les 13 premiers versets. Jésus priait un jour dans un certain endroit, et quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « quand vous priez, dites, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Cette prière du Notre Père que nous connaissons bien. Mais il continue. Il leur dit encore, supposons que l'un d'entre vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit. Et puis, il n'a rien à donner à son ami, donc il va voir son voisin. « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé en voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance. Il lui donnera tout ce dont il a besoin. Et il continue, Jésus. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Les disciples ont remarqué la vie de prière de Jésus. Et ils lui demandent de les enseigner à prier. Et Jésus a répondu à leur demande. Et vous avez remarqué que son enseignement comporte 3 parties. Le Notre Père, la parabole de l'ami qui demande, et comme point d'orgue, la demande à recevoir le Saint-Esprit. Dans la parabole, l'homme qui reçoit un visiteur n'a rien à lui offrir, alors il va voir son voisin. Il lui dit, « Je n'ai rien à offrir à mon ami, prête-moi du pain que je puisse le lui offrir. » Ensuite, Jésus fait le lien entre cette parabole et la demande du Saint-Esprit en disant, au verset 9, « Et moi, je vous dis, demandez, et vous l'on donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. En effet, ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera à son fils une pierre, s'il lui demande du pain, ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Notons bien que cette insistance à demander pour recevoir, à chercher pour trouver, à frapper pour qu'on vous ouvre, concerne la demande pour recevoir le Saint-Esprit. Ne sortons pas ces demandes hors contexte. Ces verbes, demander, chercher, frapper, qui sont des verbes d'action, ne nous montrent-ils pas que nous devons faire quelque chose pour recevoir le Saint-Esprit ? Nous avons vu donc dans la méditation précédente, et nous l'avons relu, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si nous l'aimons et gardons ses commandements. Ainsi, si le Saint-Esprit habite en nous, pourquoi le demander ? Le Saint-Esprit nous a été donné pour rester en nous. En même temps, nous devrions prier chaque jour pour le recevoir. Comment résoudre cette contradiction apparente ? D'un côté, Jean 14, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il reste avec vous, il sera en vous. » Et dans Acte 2, Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et d'un autre côté, nous l'avons lu, Luc 13, verset 13, « Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul nous exhorte à être remplis du Saint-Esprit, ou selon la version du Semeur, « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Ou selon l'original grec, « Laissez-vous constamment et toujours de nouveau remplir du Saint-Esprit. » « Laissez-vous constamment et toujours de nouveau remplir du Saint-Esprit. » Si le Saint-Esprit habite en nous, pourquoi le demander ? Nous tous qui sommes ici, nous avons reçu la vie à notre naissance, n'est-ce pas ? Et pourtant, si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est que nous avons fait le nécessaire pour que nous soyons encore là. C'est-à-dire que nous avons mangé, nous avons bu, nous avons bénéficié de toutes les bontés de notre Seigneur et nous en avons profité. Le Père Céleste nous a donné notre pain quotidien et bien plus. Nous avons grandi parce que nous nous sommes nourris régulièrement avec les bontés de l'Éternel qui se sont renouvelées chaque matin. D'accord ? D'accord ? Il en est de même pour la vie spirituelle. À notre naissance, je veux dire notre nouvelle naissance, ce baptême d'eau et d'esprit dont parle Jésus à Nicodème, nous avons reçu le Saint-Esprit, donc la vie spirituelle. Pour entretenir cette vie spirituelle, nous avons besoin de nous nourrir des moyens spirituels que Dieu nous a réservés. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la prière individuelle, la prière communautaire, le témoignage et tout ce que Dieu a prévu pour nous. Et ce n'est qu'en fonction de la qualité de notre nourriture que nous grandirons. Si nous restons au lait, nous resterons des petits-enfants, comme le souligne l'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 5, versets 12 et 13. Alors, examinons maintenant quelles sont les causes au manque de Saint-Esprit. Mais notre nature naturelle, pécheresse, l'homme livré à lui-même, et avec d'abord la recherche de nos propres intérêts. Jacques, chapitre 4, verset 3, qui nous dit « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Ce que développe l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 5, « En effet, ceux qui ne se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. » Souvenez-vous, Jésus dans le temple à 12 ans, qu'est-ce qu'il disait ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Par quoi sommes-nous préoccupés ? Par nos propres intérêts ou ceux du Seigneur ? L'apôtre Paul développe cette thématique au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Relevons quelques versets. Verset 5. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit vers la vie et la paix. Je vous invite à relire le chapitre 8 en entier. Interrogeons-nous, qu'est-ce qui est le plus important pour nous, pour moi ? Autre cause, notre inconscience. Être inconscient comme l'étaient les vierges folles qui n'avaient pas d'huile pour leur lampe et qui n'étaient pas prêtes. Elles trouvent la porte de la salle des noces fermée. Et le Seigneur de leur répondre, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Soyons prêts. Supposons que nous mourions soudainement aujourd'hui. Avons-nous l'assurance d'une vie éternelle avec Jésus-Christ ? Un vieux cantique disait « Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt ?» Vous voyez, il y a un avantage dans la maladie quand elle est grave, c'est qu'on a le temps de se préparer. Il m'a dit, mon épouse disait « Je suis prête, je veux m'en aller, mais je ne veux pas vous laisser. » Soyons prêts. Une autre cause. Notre tiédeur. Être tiède comme l'église de Laodicée. Apocalypse 3, versets 14 et 16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. N'est-ce pas terrifiant cette déclaration ? Jésus préfère les froids aux tièdes. Pourquoi ? Les chrétiens au cœur partagé, qui ne se soumettent pas entièrement à Jésus, sont pires que les incroyants, car leurs paroles trompeuses et leurs positions sans engagement peuvent entraîner plusieurs hors du bon chemin. Au moins, les incroyants affichent la couleur. Le chrétien tiède trompe les deux. Soyons cohérents entre nos paroles et nos comportements et demandons à Dieu de nous éclairer. Autre cause, ne pas être vraiment né de nouveau. Jésus répond à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Pour naître de nouveau, il faut d'abord mourir à soi-même, à savoir se repentir sincèrement et renaître avec le Christ, et non en voulant garder sa nature propre. Pour renaître, il faut que le « moi » soit mort. Une autre cause, faire semblant. 2 Timothée 3, 1, 5. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront... » Il y a la liste là. Égoïste, ami de l'argent, vantard, orgueilleux, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, impie, insensible, implacable, calomniateur, violent, cruel, ennemi du bien, traître, emporté, aveuglé par l'orgueil, ami du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Paul nous prévient que l'apparence de la piété, sans la puissance du Saint-Esprit, sera l'un des périls des derniers temps, et nous enjoint à nous en détourner. Nous détourner de ce qui est trompeur et séduisant. Toutes ces causes sont liés au fait que nous voulions garder le contrôle de nos vies et ne pas laisser le Seigneur en être le maître absolu. Maintenant que nous avons identifié les causes qui empêchent l'Esprit d'agir efficacement dans nos vies, si nous aimons le Seigneur, nous devons demander au Saint-Esprit de nous remplir de sa présence. Comment être rempli du Saint-Esprit ? Toutes ces causes au manque du Saint-Esprit dans notre vie peuvent nous troubler. Suis-je rempli du Saint-Esprit ou pas ? C'est une question fondamentale. N'oublions pas cet avertissement de l'apôtre Paul. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quelles sont les conditions nécessaires pour être rempli du Saint-Esprit ? Quelle est la solution ? C'est Jésus qui nous la donne avec la parabole du cep et des sarments. Jean 15, versets 1 à 5. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que retenir ? Si nous demeurons attachés au cep, qui est Jésus, il demeurera en nous et nous recevrons constamment son esprit. De plus, en écoutant Jésus et en faisant sa volonté, notre joie sera parfaite. C'est lui qui nous le dit. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite ou complète. Nous devons vivre et servir en totale soumission à sa parole pour porter du fruit. Et le fruit de l'esprit, nous le connaissons. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est peut-être le plus difficile, la maîtrise de soi, parce qu'il y a toujours le vieil homme qui ressort et son tempérament. C'est ça le fruit de l'esprit. Alors, nous ne vivrons plus selon nos propres réflexes naturels liés à notre tempérament, nos influences extérieures, en regardant nos propres intérêts. Mais nous vivrons notre vie différemment. Nous sommes appelés à la vivre à la manière du Christ, en nous rappelant que le plus grand commandement est d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. C'est cela, vivre selon l'Esprit. En toute chose, nous devons nous interroger pour savoir si nous agissons et réagissons selon notre tempérament ou selon les commandements de Jésus. Autrement dit, est-ce que nous agissons et réagissons selon Adam ou Jésus ? Ne sous-estimons pas le vieil homme qui sommeille en nous et qui nous éloigne naturellement de Dieu. Relisez le combat de l'apôtre Paul dans Romains 7, chapitre 18 à 25, verset 18 à 25, dans lequel il se désole de ne pas faire le bien qu'il veut faire, mais le mal qu'il ne veut pas le faire. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment demeurer en Christ ? D'abord, en priant. Priez quotidiennement Jésus de nous remplir de son Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il habite en nous. Tout à l'heure, nous avons chanté des chants qui étaient forts. « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. » C'est bien de le chanter, mais c'est encore mieux de le vivre. « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. » Puis nous avons chanté aussi que nous lui abandonnons tout. Oui, là aussi, c'est facile à chanter. Mais si nous n'avons pas l'esprit, ça sera difficile. Oui, quand l'Esprit sera venu, quand l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. C'est toujours Jésus qui parle, il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Jésus se ressourçait toujours auprès de son Père, jour après jour. Il ressentait ce besoin d'être en harmonie avec lui. Nous aussi, à plus forte raison, nous devons nous adresser à lui pour que notre être intérieur soit renouvelé. C'est la prière aussi de Paul aux Éphésiens. Je prie qu'il, c'est-à-dire le Père Céleste, vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Remarquons qu'au chapitre 1, verset 13, Paul déclare, toujours aux Éphésiens, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Les Éphésiens avaient donc reçu le Saint-Esprit. Pourtant, ils avaient besoin d'être rendus forts, puissants par son Esprit. On peut traduire également « Laissez-vous remplir du Saint-Esprit constamment et toujours à nouveau ». Et puis, bien sûr, méditer sa parole. Comment connaître la volonté de Dieu ? Comment connaître les commandements de Jésus, sinon en lisant et en nous imprégnant de sa parole ? C'est-à-dire en la lisant et en la méditant. Elle est lumière, guide, boussole, sagesse, pain céleste, source de vie. Faisons notre cette magnifique prière du psalmiste. Psaume 119, les versets 9 à 18. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se conformant à sa parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Puis au verset 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. » Et puis celui qu'on connaît tous par cœur, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole, c'est le mode d'emploi de notre vie. Et elle donne du sens, c'est-à-dire à la fois la signification et la direction. La prière plus la méditation de la parole, c'est notre nourriture spirituelle. D'où l'importance des réunions d'études bibliques et de prière. Conclusion. Le sujet est loin d'être épuisé. Je n'ai pas parlé des dons du Saint-Esprit, par exemple. Et nous aurions pu nous attarder sur ce qui appartient aux fruits de l'Esprit. Aujourd'hui, ce matin, nous avons vu pourquoi nous devions demander le renouvellement du Saint-Esprit en nous. À l'instar de la colonne de nuée et de feu qui guidait les Israélites dans le désert, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider. Nous avons repéré quels sont les obstacles à la vie de l'Esprit en nous. Nous savons quelles sont les conditions nécessaires pour que nous ayons cet Esprit en nous, en restant attachés au cep qu'est Jésus, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. En ayant cette intimité avec notre Père Céleste par la prière et la méditation de sa parole, en étant de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Demandons à Dieu de renouveler notre intelligence pour que nous accomplissions sa volonté. Ainsi, nous ne serons pas livrés à nous-mêmes, mais nous marcherons par l'esprit. Nous pourrons alors porter du fruit pour la gloire de son nom. Gloire à notre Dieu. Amen.